Que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » On connaît l'histoire. On dit, c'est pas bien, le petit, il s'est cassé avec les thunes de papa, il a tout dépensé, puis après, il rentre à la maison. Enfin, on comprend quelque part un petit peu le fils aîné, on dit, attends, il en prend plein la figure, comme ça. Sauf que c'est peut-être un petit peu plus profond que ça, la lecture de l'évangile, de cet évangile. On va essayer de creuser un petit peu ce que ça veut dire, mais on entend dans ça, j'entends cette phrase aussi de Gustave Thibon, un philosophe, qui disait, le drame, voyez-vous, le premier drame qui s'est posé dans l'humanité, c'était cette question que Dieu va poser au paradis terrestre. Adam, où es-tu? L'obsession de Dieu, c'est de retrouver ses enfants. Adam, où es-tu? Ben, il savait bien, il le voyait. C'est pas en se cachant derrière l'arbre qu'il allait échapper au regard de Dieu, vous comprenez bien. C'est pas en se cachant quelque part qu'on va échapper au regard de Dieu. Il nous regarde. Mais Dieu est en train de dire, mais où es-tu par rapport à moi? Où es-tu par rapport à la relation que nous avions établie? Où en es-tu dans cette intimité que j'avais voulu créer avec toi? Et qui finalement a été sans doute brisé parce que je ne te vois plus à la même situation qu'auparavant. Je ne te vois plus dans la même relation que tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre relation soit brisée? Donc ce cri de Dieu au paradis, mais Adam, où es-tu? N'est pas une question géographique d'abord, puisque Dieu avait son GPS, le radar, voyez bien où étaient les deux tourtereaux qui étaient cachés derrière l'arbre. Non, la question n'était pas là, la question c'est, mais où te situes-tu par moi? Quelle est ta relation? Comment tu te comprends par rapport à moi maintenant? Je t'ai vu comme un ennemi, je t'ai vu comme l'ennemi de ma liberté, je t'ai vu comme celui qui était l'adversaire de mon bonheur. Oh, dit Dieu, mais c'est juste le contraire, c'est juste le contraire. Je suis le garant de ton bonheur, le garant de ta liberté. Derrière cette parabole de l'enfant prodigue, il y a tout ça qui se situe, voyez-vous. Gustave Thibon reprend ça en disant, poussant le premier cri, alors il le met dans la bouche du père, « mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il dit, à ce cri, « mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» va résonner une fois dans l'histoire de l'humanité un autre cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri du Fils. Pour ramener l'humanité vers le Père, le Fils va crier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voyez-vous, c'est intéressant parce que au Golgotha, il y a sept paroles du Christ en croix. La première, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La dernière parole, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et la parole du milieu, la quatrième, et dans la tradition biblique, il y a ce qu'on appelle des structures concentriques, des chiasmes. La parole centrale est la parole un peu qui est le grand enjeu, le grand mystère. Et puis celle de chaque côté explique, comme ça. La parole centrale, c'est mon Dieu. Et la parole, les deux paroles englobantes, c'est Père. Dès que je vois Dieu comme Dieu seulement et plus comme Père, c'est un drame. Je pense qu'il peut m'abandonner. Et quand je dis Père, pardonne-leur, et Père, entre tes mains, je remets mon esprit, il n'y a plus d'abandon possible. Le Père ne peut pas abandonner son enfant. Le Père ne peut pas lâcher son enfant, ce n'est pas possible. Il le guette en permanence, comme ça, il est là, à s'user les yeux. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, cette chose-là. Il ne peut pas quitter. Mais dès que ce Père n'est que Dieu, il est conceptuellement Dieu, alors à ce moment-là, ça devient une tragédie. Et c'était le drame d'ailleurs du péché originel, vous savez. Dans le péché originel, dans le texte de la Genèse, on dit que Dieu parla, s'adressa la parole à Adam et Ève, à nos premiers parents. Et l'expression qui est utilisée, c'est Yahvé Elohim, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, le Dieu personnel et relationnel. Quand Satan dit « alors Dieu a dit », il n'y a plus de Yahvé Elohim, il y a Elohim tout court avec un E minuscule. C'est le concept de Dieu qui cause. Et ça, c'est tout un long travail, voyez-vous, comment passer du concept de Dieu au Père, à la paternité. Alors, il y a tout le drame de l'enfant prodigue et de l'enfant aîné qui se joue là derrière. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, qu'est-ce que signifie ce drame de ces enfants. Alors, avant ça, j'aimerais quand même vous lire un petit texte de Peggy sur cette question-là, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. « Un homme avait deux fils. De toutes les paroles de Dieu, dit Peggy, c'est celle qui a éveillé l'écho le plus profond. C'est la seule que le pécheur n'a jamais fait taire dans son cœur. » Ainsi, elle accompagne l'homme dans ses plus grands débordements. C'est elle qui enseigne que tout n'est pas perdu. Il n'entre pas dans la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits périsse. Quand le pécheur s'éloigne de Dieu, mon enfant, à mesure qu'il s'éloigne, à mesure qu'il s'enfonce dans les pays perdus, à mesure qu'il se perd, il jette au bord du chemin, dans la ronce et dans les pierres, comme inutile et embarrassante.